représentation. Alors, Brenda, je pense que c'est vous qui allez faire passer les diapositives. Je voulais en fait savoir si je le faisais, si j'avais accès. Alors, bonjour à tous, Jonathan Zuck au micro. Donc, la révision CCT, c'est une révision qui a été demandée par une affirmation d'engagement, qui maintenant est une révision obligatoire de par les statuts suite à la transition IANA. Et donc, notre objectif était d'évaluer comment le programme des nouveaux GTLD promeut la compétition, la concurrence, et la confiance et le choix du consommateur. Il y a eu également un processus d'évaluation, ainsi qu'une évaluation des processus d'application de candidature. Il y avait des objectifs spécifiques pour notre équipe de révision, et ceux-ci sont un petit peu différents que celles des équipes de révision précédentes. Premièrement, d'avoir une évaluation basée sur les données, l'évaluation donc des programmes des nouveaux GTLD, ainsi qu'une amélioration ou une information des politiques relatives à l'introduction des nouveaux GTLD à l'avenir. En ce qui concerne les conclusions initiales, nous avons vu une amélioration dans la concurrence et le choix des consommateurs, ainsi que dans l'adoption de sauvegardes. Il faut collecter davantage de données pour identifier les conséquences négatives importantes de ce programme des nouveaux GTLD. Nous en parlerons par la suite. Donc, dans le rapport, il manque des données importantes dans de certains questionnaires qui donc n'ont pas été terminés. Donc, ce que nous aimerions, c'est que vous puissiez faire un commentaire sur le rapport préliminaire. La période de commentaires publics se terminera le 27 avril. Vous voyez le lien ici dans la diapositive. Vous pouvez donc y avoir accès à ce rapport et vous avez également l'adresse email à laquelle vous pouvez envoyer vos commentaires. Alors, l'élargissement du marché du DNS a manifesté donc une augmentation de la concurrence et du choix des consommateurs et a quelque peu atténué son impact sur la confiance et les droits des consommateurs, en particulier par rapport à la protection des marques de commerce. Mais il existe certaines exceptions. Le programme des nouveaux GTLD doit être considéré uniquement comme un bon début. En fait, il en est vraiment à ses balbutiements parce qu'en grande partie, ces GTLD ont été introduits dans la racine alors que nous étions en cours de révision. Donc, en fait, pour beaucoup, ils ne sont pas là depuis très longtemps. Ils n'existent pas depuis très longtemps. Et en principe, il faut 3 ans pour vraiment savoir si un GTLD se porte bien. Donc, en fait, on en est vraiment au début de ces efforts dans le nouveau GTLD. Il y a un certain nombre de questions relatives aux politiques qui doivent être traitées avant de continuer d'élargir ce programme des nouveaux GTLD. Et les données sont incomplètes dans certains domaines. Donc, c'est un petit peu encore difficile de vraiment avoir une idée exhaustive de ce qui se passe. Si vous regardez nos recommandations préliminaires, en fait, les statuts nous obligent à déterminer si oui ou non ces recommandations doivent être considérées, doivent être en fait un prérequis pour qu'on ajoute, pour pouvoir ajouter de nouveaux GTLD lors des procédures ultérieures. Nous avons élargi la définition de manière à inclure des recommandations qui ne sont pas prérequises, donc qui correspondent à différents niveaux de priorité. Donc vous voyez que les prérequis doivent être mis en place avant le lancement des procédures ultérieures, sinon on parle de priorité de plus ou moins grande importance. Donc, haute priorité, nous recommandons que cela soit fait dans les 18 mois suivant le rapport définitif. Priorité moyenne, donc dans les 36 mois. Et priorité basse, avant le début de la prochaine CCT. Donc vous voyez ici un petit aperçu sur les recommandations, donc analyse des données, concurrence, choix des consommateurs, confiance, sauvegarde, processus d'évaluation de l'application, etc. Donc, nous étions très engagés par rapport à cet effort basé sur les données. Donc, il y a eu beaucoup de recherches primaires qui ont été faites dans le cadre de cette révision. Et donc, la mise en place, le groupe de mise en place a demandé à ce qu'il y ait 4 questionnaires, 4 sondages sur les consommateurs, sur les candidats de nom de domaine. Et donc, lorsque l'équipe de révision a été organisée, nous avons en fait regardé la deuxième moitié de ces questionnaires pour voir s'il y avait eu des changements. De la même manière, il y a eu un certain nombre d'études économiques qui ont considéré les facteurs relatifs au prix et à la compétition dans l'espace de domaine. Il y a eu également un questionnaire sur les candidats, les demandeurs, donc, pour voir quel était le processus. Et puis, il y a également un groupe qui s'est concentré sur des cohortes de candidats dans l'hémisphère sud. Donc, en fait, des entités qui sont similaires à celles qui ont fait des demandes. Nous avons également regardé les nombres en matière de parking dans les GTLD historiques. Et nous sommes également en cours d'étude des sauvegardes du programme des nouveaux GTLD par rapport aux abus du DNS. Donc ce questionnaire, ce n'est pas nous qui l'avons demandé, mais c'est quelque chose qui est fait par les détenteurs de marques de commerce pour voir ce qui se passe dans ce domaine. Donc tout ceci est encore en cours. Nous avons besoin de davantage de données sur le concept de parking, pour voir quel est l'impact du parking sur la concurrence. Nous avons besoin d'une meilleure étude sur les prix, sur la vente de gros, de détails, sur les marchés secondaires, internationaux et régionaux. Et ça, c'est un peu complexe à identifier. Il nous faut mieux comprendre la concurrence, les comportements de substitution, la confiance du consommateur. Donc, encore une fois, un questionnaire qui sera fait à l'avenir des utilisateurs finaux. Ensuite, suivi des programmes visant à aider les candidatures, les demandes. Il n'y a pas nécessairement eu suffisamment de détails dans ce domaine. Donc, les plaintes signalées à la conformité de l'ICANN, donc davantage de détails nécessaires par rapport à ceci, et puis également donc le nombre d'abus de DNS, l'évaluation des abus de DNS dans les historiques et les GTLD. Donc, une des recommandations générales du rapport vise à formaliser ou à officialiser et à promouvoir la collecte des données. Donc, cette initiative vise à une analyse quantitative du marché et de la mise en place des politiques. Donc, nous recommandons qu'il y ait un expert en données qui s'y applique. Et donc, l'idée, c'est d'obtenir davantage de données. Donc, y a-t-il des questions avant que nous ne passions à la question relative à la concurrence et au choix ? Très bien, je ne vois pas de main levée. Donc, nous allons maintenant passer à la concurrence et au choix des consommateurs. Et c'est Jordan Buchanan qui va s'occuper de cette partie, puisque c'est lui qui était responsable de cette question au sein de l'équipe de révision. Jordan au micro, merci Jonathan. J'ai été effectivement responsable de cette partie, donc concurrence et choix du consommateur dans le cadre de l'équipe de révision. Et donc, Jonathan, je vais vous demander de passer au transparent suivant. Alors, Jonathan a déjà parlé de notre méthodologie en partie, et lorsqu'on considère les différents facteurs qui ont un impact sur la concurrence et sur le choix du consommateur, en fait, nous avons considéré études qui ont été faites. Premièrement, l'étude qui a été faite par un groupe d'analyse économique qui a considéré deux périodes sur 2 années. Et donc, nous avons considéré un certain nombre d'analyses, de mesures relatives à la concurrence et au choix du consommateur. Il y a également eu un ensemble d'études Nielsen pour les utilisateurs finaux, donc les personnes qui naviguent sur les sites web, qui utilisent des noms de domaines divers et variés, et deuxièmement, donc les titulaires de noms de domaines. Et donc nous avons vu quels ont été les changements sur une année. Nous avons considéré principalement ces études. Et nous avons regardé les questionnaires pour voir quelles étaient les analyses de ces résultats sur le choix du consommateur. Alors, ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on parle de concurrence, en général, on parle de la concurrence dans un marché spécifique. Et donc, pour comprendre à quoi correspond ce marché, il faut au moins partir d'une hypothèse par rapport à ce que ce marché représente. Et malheureusement, nous n'avions pas les données nécessaires pour être réellement confiants, en fait, à savoir, est-ce que nous avions bien défini un certain marché, parce qu'il y a un certain nombre de réglementations, il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Et donc, pour vraiment bien réussir notre étude, il nous a fallu un petit peu définir à quoi correspondait nos marchés, et ensuite définir les calculs que nous allions obtenir par rapport à ces marchés. Donc, juste pour vous donner un petit exemple, certaines personnes pensent peut-être que les nouveaux GTLD entreraient en compétition avec d'autres GTLD historiques qui existaient déjà, mais d'autres personnes pensent peut-être que les nouveaux GTLD étaient en concurrence à la fois avec les GTLD historiques et les CCTLD. Et donc, pour d'autres, peut-être qu'ils pensent qu'ils sont uniquement en compétition avec CCTLD qui se comportent parfois comme certains GTLD, donc ceci correspond à différents enregistrements dans certains pays. Donc voilà un petit peu ce que nous avons cherché à faire pour définir nos marchés, et dans le cadre de notre rapport, nous avons calculé l'impact selon ces 3 définitions de marché. Nous croyons que cette démarche nous permet de comprendre l'effet de l'introduction des nouveaux GTLD. Donc, quelle que soit la définition, quels que soient les marchés, et à l'interne, quelles sont les tendances par rapport aux marchés sélectionnés.
Et donc, quelques-uns de ces exemples sur la performance sur les parts de marché, sur la part des enregistrements, par exemple, dans ce marché, étant affectée au nouveau GTLD par rapport au CCTLD, par exemple, il y a certaines définitions sur la concentration sur le marché. Donc, on a un outil utilisé par les opérateurs qui nous donne une idée de la part de marché sur un marché précis et concentré sur une petite part de concurrents dans cet espace. Donc, par exemple, si vous avez un marché où il y avait 2 ou 3 concurrents, tout particulièrement avec quelques-uns d'entre eux ayant la plus grande part du marché, eh bien, ça, c'est un marché très concentré. C'est une situation de marché très concentrée. Et là, les agences de régulation commencent à s'intéresser à ce type de situation. On parle de l'index HHI sur la concentration des parts de marché. Et enfin, par rapport à notre méthodologie, dernier point, nos mesures ont été prises avec une ligne de base, un point de comparaison de 2013 avant l'introduction des nouveaux GTLD. Et nous avons vu les tendances jusqu'en mars 2016, donc ça a un an à peu près, et nous allons rafraîchir un petit peu toutes ces données pour qu'elles soient plus à jour dans notre rapport final. Lorsque nous avons regardé la concurrence en général, eh bien, nous avons observé des signaux généralement positifs par rapport à cette concurrence. Un signal important que nous avons noté, c'est que en mars 2016, par rapport à la fin de 2013, eh bien, la moitié de l'accroissement du nombre total d'enregistrements de tous les GTLD s'était déroulé dans le cadre des nouveaux GTLD. Donc ce que cela signifie, c'est que la croissance des GTLD, c'était 50-50 entre les GTLD historiques et les nouveaux GTLD. Et le résultat de cela, c'est que la concentration du marché, les indicateurs dont je vous ai parlé, comme le HFI, ont décliné d'une manière significative. Si vous définissez le marché comme étant principalement des GTLD, c'est un marché relativement concentré. Bon, les plus grands GTLD sont opérés par les mêmes entreprises, et même s'il y a quelques concurrents qui sont nouveaux sur le marché, leur part de marché est relativement réduite. Donc le résultat de ces diverses mesures de concentration du marché, le HHI dont nous avons parlé tout à l'heure, cet index, eh bien, il était assez élevé pendant notre période d'analyse. Il a continué à être élevé en mars 2016, mais cet index avait baissé de plus de 1000 points. Même s'il reste élevé, le HHI, l'index, a baissé. Donc ça veut dire un accroissement de la concurrence. Néanmoins, ce que nous espérons voir lorsqu'il y a plus de concurrence, c'est des prix qui baissent pour les consommateurs. Nous ne l'avons pas beaucoup observé dans ce cadre de figure, mais on n'a pas assez de données, je pense, pour véritablement bien observer l'impact éventuel sur le prix. Et l'ICANN régule et réglemente les prix des GTLD historiques, donc le marché est un petit peu distordu de cette manière, un petit peu faussé. Donc on manque de données, et on n'a pas de données comparables pour les GTLD historiques. C'est très difficile de faire une bonne comparaison entre les GTLD historiques et les nouveaux GTLD. Donc il y a beaucoup de prix en gros, on connaît bien le prix en gros, ce que les registres vendent au bureau d'enregistrement, mais ça c'est pour les nouveaux GTLD, mais on n'a pas pu obtenir de données de la part des GTLD historiques. Donc c'est très difficile de faire une comparaison des prix, puisqu'on n'a pas toutes les données pour les prix de gros. Donc je ne sais pas si on aurait observé beaucoup de changements dans les prix des GTLD historiques, parce que tous ces GTLD historiques ont été sujets à des prix maximum. Il y avait des seuils maximum pour les prix. C'est ce que nous avons vu en 2013. Et il y a toujours ces limites maximum pour les prix qui existent. Donc ça, c'est dans le cadre des contrats avec l'ICANN. Et cela limite les prix maximum de ces GTLD. C'est entre 5 et 10 dollars en général pour l'enregistrement, puis de groupe. Nous avons noté que les nouveaux GTLD, en fait, les prix sont plus élevés que les GTLD historiques. Donc on peut en conclure que même aujourd'hui, on a dépassé un petit peu les seuils limites avec l'introduction des nouveaux GTLD. Donc, on peut voir un impact, une certaine baisse sur les GTLD historiques. Mais en fait, la limite qui est fixée n'a pas toujours une incidence très forte sur les prix du marché. Donc, un autre avertissement que nous avons noté, une exception dans notre étude, c'est que c'est un marché relativement restreint, assez petit. Comme vous pouvez le voir, trois quarts des nouveaux GTLD ont moins de 10 000 enregistrements et plus de 90% ont moins de 50 000 enregistrements. Ça, c'est pour les trois quarts des nouveaux GTLD. Malgré, donc, le fait que nous avons exclu TLD spécifiques qui ne sont que pour un seul bureau d'enregistrement, par exemple, .brand, et ceux qui sont exempts, qui bénéficient d'exemption, pour les opérateurs de registre, donc on a exclu cela de notre étude. Donc là, on s'attendait bien entendu à des niveaux d'enregistrement très très faibles pour ces exceptions que nous n'avons pas pris en compte. Mais en général, le nombre d'enregistrements est relativement faible. Et le résultat de cela, c'est qu'ils ne sont pas tous viables et il n'y a pas d'effet d'échelle possible. Donc, les résultats que nous pouvons observer, si l'on veut que, et s'ils sont toujours petits, ces TLD à la longue, eh bien, ce sont de petites opérations, et nous avons noté que dans ce secteur commercial, étant donné que les opérateurs techniques, les opérations techniques des registres et la distribution des noms de domaine, maintenant peuvent être effectués par des parties tierces. Donc les opérations techniques, l'aspect technique, les services techniques qui fournissent des services techniques aux opérateurs de registres. Et le résultat de cela, c'est que les opérateurs de registres peuvent être plus petits et survivre, même avec peu d'enregistrement. Donc ça, il faut qu'on comprenne mieux cela, qu'on observe mieux ce fait et qu'on analyse plus pour bien tirer des conclusions de cela. Donc, en ce qui concerne le choix du consommateur, c'est très clair, les nouveaux GTLD donnent aux consommateurs plus de choix. L'expansion du programme a donné aux bureaux d'enregistrement et aux utilisateurs finaux, aux consommateurs, plus d'options dans le cadre du choix de nouveaux noms, dans différentes langues, différents caractères, avec des identifiants géographiques différents et des catégories beaucoup plus spécialisées. Donc, les restaurants, par exemple, il y a des TLD qui peuvent être intéressants pour les restaurants, pour ce secteur très précis. Même chose pour les personnes qui font la comptabilité, les comptables, les bureaux de comptables, par exemple. Donc ça, c'est un avantage pour les consommateurs. Il y a plus de domaines, il y a plus de spécificités, plus de choix, plus de nombre de domaines de premier niveau. Donc, .nyc pour New York City, par exemple, tous ces nouveaux GTLD qui sont apparus. Mais ça, c'est limité, bien entendu, à la ville de New York, les personnes qui sont dans la ville de New York. Donc, en général, c'est positif. Le choix du consommateur a été rehaussé. Voilà ce que nous avons noté dans notre recommandation numéro 10. Ce qu'on essaye de mieux comprendre pour le choix du consommateur, c'est si les bureaux d'enregistrement s'intéressaient beaucoup à ce choix, s'ils voulaient, s'ils s'intéressaient de près à ces nouveaux GTLD. Ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'enregistrements défensifs qui pouvaient réduire les possibilités pour les marques enregistrant beaucoup de domaines? Est-ce que certaines marques devaient faire des enregistrements défensifs dans la plupart des cas? Donc, on a essayé de définir cela. Je crois qu'il y a des bureaux d'enregistrement qui étaient motivés par ces enregistrements défensifs, mais en général, ils choisissaient d'avoir de nouveaux GTLD pour avoir plus de produits, pour élargir la gamme de GTLD qu'ils donnaient et qu'ils offraient. Donc même si ce sont des noms assez similaires, assez identiques, eh bien, on voit que les personnes et les clients décidaient de s'enregistrer même sans l'être obligé.
Nous avons essayé de considérer de manière spécifique le sujet relatif aux détenteurs de marques, de manière à comprendre ce que faisaient les détenteurs de marques lorsqu'ils enregistraient dans ce domaine, de manière à savoir s'il y avait des coûts relatifs aux enregistrements qui étaient importants pour eux. Et donc, il y a une étude spécifique qui a été faite dans ce domaine. Et ce qui a été identifié, c'est que pour la plupart de ces détenteurs de marques, de ces propriétaires, le coût était relativement bas en ce qui concerne l'enregistrement de leur marque de commerce dans les nouveaux GTLD. Il y a peut-être d'autres coûts relative à l'introduction du programme, mais pour ce qui est de l'enregistrement même des nouveaux GTLD, ceci était relativement bas. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour la moitié des propriétaires qui avaient donc enregistré leur marque dans le centre d'échange, et pour ceux qui avaient donc enregistré leur nom dans le cadre des GTLD historiques, pour la moitié, et ne se sont pas enregistrés dans les TLD. Et pour ceux qui étaient enregistrés dans les GTLD, en fait, le nombre de noms qui étaient enregistrés était de 3. Donc, parmi les centaines de nouveaux GTLD qui étaient introduits, la plupart des propriétaires enregistraient un nombre assez réduit, donc 3 en général. Il y avait un petit nombre de propriétaires de marques qui enregistraient un grand nombre de GTLD, donc pour 4% d'entre eux, ils avaient enregistré leur nom dans plus de 100 GTLD. Et nous avons trouvé un propriétaire spécifique qui s'est enregistré dans plus de 400 nouveaux GTLD. Et donc, une des choses que nous recommandons, c'est qu'en fait, les politiques de l'ICANN suivent ce comportement pour voir si on peut réduire le coût par rapport à ceux qui enregistrent des centaines de nouveaux GTLD, parce que cela peut représenter un coût assez important pour eux en matière d'enregistrement. Alors, autre domaine que nous avons considéré en ce qui concerne le choix du consommateur, c'est les politiques adoptées par les opérateurs de registre. Vous vous imaginez bien qu'une des manières qu'a le consommateur de prendre une décision pour savoir si oui ou non il enregistrera un GTLD sera basée sur la politique relative à ce GTLD. Donc nous avons considéré les 30 GTLD les plus importants et nous avons considéré différents domaines. Premièrement, les droits de la vie privée. Et ce que nous avons vu, c'est que pour les nouveaux GTLD, il n'y a pas une grande différence en matière de protection de la vie privée. Une des choses spécifiques que nous avons observées, c'est que en ce qui concerne le partage de données ou la vente de données, eh bien, les déclarations sont assez claires dans les politiques. Donc, autre recommandation que nous avons faite, c'est qu'il doit y avoir des réglementations très strictes pour la collecte et la vente de données personnelles par les opérateurs de registre. Donc, le rapport définitif, eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous allons faire pour compléter notre travail. Premièrement, nous allons mettre à jour nos calculs en ce qui concerne les parts de marché, la concentration sur le marché, etc., sur la base de données plus récentes. Nous utiliserons sans doute des données de la fin de 2016. Malheureusement, bien sûr, ces données auront quelques mois d'ancienneté, mais il y a certains facteurs en matière de collecte de données et de partage avec l'ICANN qui, en fait, impliquent que ces données doivent rester confidentielles pendant un certain nombre de mois. Donc, nous avons ce petit retard qui est obligatoire. Mais cela nous permettra quand même de mettre à jour ce qui existe par rapport au rapport préliminaire. Jonathan l'a dit tout à l'heure, nous considérons également le fait de savoir si le parking a un effet sur la concurrence et sur les niveaux de concentration que nous considérons. Nous voyons que d'une manière générale, le taux de parking est plus élevé pour certains GTLD. Il y a certaines données initiales qui indiquent, depuis la publication du rapport initial, qu'il y a un taux de parking élevé pour certains domaines, mais il n'y a pas une énorme différence. Nous essayons de voir comment ajuster nos calculs, contrôler le taux de parking pour voir comment ajuster le calcul, en fait, pour voir si les résultats sont différents. Il y a certaines personnes qui font l'hypothèse que si les noms sont parqués, plutôt que d'être utilisés, eh bien, le taux de renouvellement sera sans doute bas. Donc, même s'il y a un enregistrement élevé pour certains nouveaux GTLD, les utilisateurs, en fait, ne renouvelleront pas nécessairement le nom à l'avenir. Et cela sera moins viable du point de vue économique, peut-être. Et dernière chose que nous faisons, c'est que nous essayons de considérer la définition plus spécifique des marchés, pas uniquement donc le marché international, mais les marchés plus nationaux, plus spécifiques. Donc, nous utilisons les données de l'étude de marché récente qui a été faite en Amérique latine. Dans le cadre de cette étude, en fait, l'idée, c'était de considérer les données qui existaient dans un certain nombre de domaines. Donc, il y a des données qui sont relatives à la part de marché pour certains pays très spécifiques. Et donc, nous allons essayer de voir s'il y a dans certains pays certains comportements particuliers en ce qui concerne la pénétration des nouveaux GTLD dans le marché, pour voir s'il y a certaines différences par rapport aux résultats internationaux. L'étude de base LAC a montré donc certaines différences entre les différents pays. En matière de concurrence, CCTLD, nouveaux GTLD en particulier. Donc nous devrions pouvoir voir ces données ressortir maintenant et donc nous donner un rapport plus complet. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation générale sur le choix du consommateur. Alors je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions par rapport au sujet dont j'ai parlé. Ou alors s'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé et que vous souhaitez que j'aborde, eh bien je peux le faire. Tant que nous parlons de la du choix du consommateur. Et ensuite, nous passerons au processus d'application et au reste du webinaire, donc. très bien. Nouvel intervenant au micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main dans Adobe Connect. Ou alors, si vous n'êtes pas sur Adobe Connect, vous pouvez directement poser votre question. Pour l'instant, il n'y a personne qui demande à prendre la parole. Très bien. Pas de questions pour l'instant, donc je vais passer la parole à Laurine Capen, qui était responsable de la partie sauvegarde et confiance du consommateur. Laurine au micro. Merci Jordan, j'espère que vous m'entendez bien. Sinon, dites-le-moi ou indiquez-le dans le chat pour que nous puissions faire des réglages techniques. Je m'appelle Laurine Capen et avec mes collègues, je me suis concentrée sur la question de la confiance du consommateur et sur les sauvegardes. Vous m'entendrez moi, mais vous entendrez également Drew Bagley et Jonathan Zug et puis David Taylor ce matin. Alors, ce que je souhaite faire, c'est vous faire une petite présentation de très haut niveau. Et ensuite, j'aimerais vous donner l'opportunité de poser vos questions. Alors, deux grands thèmes que je vais aborder. Donc, la confiance du consommateur et les sauvegardes. Donc, d'une manière générale, en ce qui concerne la confiance du consommateur, nous n'avons pas découvert que l'introduction du grand nombre de nouveaux GTLD ait pu avoir un impact sur la confiance du consommateur, en tout cas de manière négative. En effet, d'une manière générale, il semblerait que la confiance dans le DNS, en fait, n'a pas été impactée suite à cette introduction des nouveaux GTLD. Alors, pourquoi est-ce que les consommateurs font confiance à ces nouveaux GTLD? Eh bien, il semblerait, selon la recherche, qu'il y ait un lien entre la confiance qu'avaient les consommateurs par rapport aux mesures de sécurité, par rapport à la réputation de ces nouveaux GTLD, mais nous pouvons utiliser davantage d'informations, en fait, pour analyser ce pourquoi, pour aller à la racine de ce pourquoi, et j'en parlerai dans un instant. En ce qui concerne les sauvegardes, il y a eu une amélioration générale par rapport à un certain nombre de sauvegardes qui ont été introduites en lien avec le programme des nouveaux GTLD. Le nouveau programme a en fait introduit tout un tas de sauvegardes qui n'existaient pas par le passé et qui, pour beaucoup, visaient à atténuer l'abus du DNS. Donc ceci est important, bien sûr. Nous avons également remarqué que, en fait, on pouvait s'améliorer dans le domaine de la compréhension de l'impact, à la fois pour le public et pour les entités qui s'occupent des sauvegardes. En fait, comment fonctionnent ces sauvegardes dans le monde réel? Donc là-dessus, nous avons besoin de davantage d'informations. Une de nos recommandations clés dans ce domaine, c'est en fait une collecte plus systématique de données, surtout en ce qui concerne l'abus du DNS. Et également, nous avons besoin de davantage de transparence, à la fois sur la manière dont les plaintes sont signalées, le sujet et les résultats de ces plaintes. Et donc, je rentrerai un petit peu dans les détails là-dessus. Mais cela vous donne une idée générale, un petit peu, en matière de confiance et de sauvegarde. Alors, nous allons maintenant nous focaliser principalement lors des diapositives suivantes sur la confiance du consommateur. Alors, quelle a été notre méthodologie? Donc, l'ICANN a demandé à ce qu'il y ait deux ensembles d'études qui ont été effectuées par Nielsen. Donc, la première focalisée sur les utilisateurs finaux de l'Internet. Vous pouvez voir en détail quelle a été la définition spécifique. Et également des sondages focalisés sur les titulaires de noms de domaine, qui enregistrent des noms de domaine. Donc voilà quels ont été les résultats clés. premièrement, qu'il y a deux facteurs primaires en ce qui concerne la confiance du public dans les nouveaux GTLD. Premièrement, leur niveau de connaissance, la réputation et également la sécurité. Donc, de toute évidence, le public ce qui est important, c'est la sécurité, surtout en matière fourniture d'informations, informations financières en particulier. Donc, effectivement, ceci est très important en matière de confiance. Et les sondages ont également indiqué que lorsque l'on compare le niveau de confiance entre les anciens et les nouveaux GTLD, les nouveaux GTLD, en fait, on leur fait moins confiance. Et ceci n'est pas surprenant, puisque nous commençons par le fait qu'il faut être, il faut bien connaître. Donc, il y a la question de la familiarité, de la connaissance des GTLD. Nous en sommes au début du lancement de ces GTLD. Et donc, d'ailleurs, vous savez que nous avons trouvé que donc les nouveaux GTLD, en fait, on leur fait confiance à peu près à un taux de moitié.
Donc, notre étude indique qui peut enregistrer un domaine et avoir confiance en cela, avoir confiance dans les GTLD, avec un nom qui indique, par exemple, si c'est très régulé, si c'est une industrie très régulée, un secteur très régulé, organisation à but non lucratif, il y a des attentes. Pas n'importe quelle personne peut enregistrer un nom. C'est quelqu'un qui doit être compétent et on doit vérifier qu'il s'agit bien, dans ce cas par exemple, d'une unité, d'une entité à but non lucratif. Donc ça, c'est la confiance du consommateur qui est en jeu. Nous pensons que la confiance du consommateur n'a pas baissé depuis l'introduction du nouveau GTLD. Voilà quelques recommandations que nous faisons sur la confiance du consommateur. Si cela vous intéresse, vous pourrez en savoir beaucoup plus en lisant le rapport complet avec une mise en contexte de toutes ces questions de confiance du consommateur. Nous avons une recommandation qui nous dit que ce serait utile de voir quels sont les nouveaux GTLD qui sont visités le plus souvent et pourquoi? Que font ces nouveaux GTLD pour obtenir la confiance des consommateurs? Donc là, il faudra qu'on donne beaucoup d'exemples de cela. Et quelles sont les informations qui sont fournies par ces GTLD? Donc je crois qu'il faut continuer et creuser un petit peu notre analyse des nouveaux GTLD, parce que la familiarité est essentielle pour avoir la confiance des consommateurs. Une autre recommandation, ce serait de se baser sur les résultats de l'enquête du questionnaire Nielsen. Sur les attentes du public par rapport au nouveau GTLD, du rapport entre le nom et le fait que point photo, ça va bien être sur la photographie. Le rapport entre le nom et le contenu. Il y a une attente également des consommateurs que certains GTLD ont des messages tacites de confiance qui sont dans le nom même du GTLD. Il y a donc ce message qui est porté par le nom et je crois qu'il faut créer donc des encouragements pour que ce soit effectivement le cas. Il y a également beaucoup à faire sur la sécurité des informations les plus sensibles, sur la santé, les informations financières. Ça, il faut vraiment qu'on réponde aux attentes des consommateurs. C'est absolument essentiel. Une autre recommandation, c'est de continuer cette étude. Tout particulièrement en ce qui concerne les utilisateurs finaux, les consommateurs qui utilisent ces GTLD et les questionnaires des bureaux d'enregistrement, ça c'est très important pour avoir un point de comparaison, pour avoir une ligne de base. Donc je vais observer une pause maintenant au cas où vous ayez des questions. Et si vous avez des questions, je serai très heureuse que d'y répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main dans Adobe Connect, ou bien, je crois que vous pouvez également, vous avez une ligne téléphonique qui permet de poser des questions, ou bien utiliser, taper la question sur Adobe Connect en bas à droite, dans le chat. Donc, je ne vois pas de questions, je n'entends pas de questions non plus. Alors, je vais poursuivre et mon collègue Drew Bagley va nous parler un petit peu plus de l'utilisation malveillante ou frauduleuse du DNS. Merci beaucoup. J'appelle Drew Bagley et je vais me concentrer en effet sur ces abus du DNS, un petit peu comme en avait parlé Maureen. Donc, dans notre analyse et notre groupe de travail, équipe de révision, concurrence, confiance et choix du consommateur, nous avons décidé, et on nous a demandé d'ailleurs, de travailler au problème d'utilisation frauduleuse et malveillante, et de voir quelle est l'efficacité des protections et sauvegardes mises en place. Donc, où en étions-nous au niveau de la confiance du consommateur par rapport au nouveau GTLD? On avait besoin de données, évidemment, à analyser pour voir si le DNS était toujours, comme on le pensait au départ, en confiance pour les consommateurs, mais plus particulièrement pour les TLD, qui font partie de l'expansion du DNS. Donc, on s'est penché sur les abus de DNS, sur l'efficacité de ces protections dans le programme, et comment on pouvait réduire les utilisations frauduleuses. Il y a un aspect technique là-dessus, sur les sauvegardes. Il y a eu 9 sauvegardes qui ont été mises en place. Il y a des règles SAG, par exemple, pour limiter certains abus et utilisations frauduleuses. Donc, il y a beaucoup plus de détails sur, notamment de détails techniques, dans notre rapport. Mais en général, notre analyse, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons encore. Nous travaillons encore sur les résultats. On a vraiment besoin d'une analyse beaucoup plus large et qui pourrait analyser tous les problèmes d'enregistrement de ces noms de domaine. Et donc, essayer de voir quels sont les noms de domaine enregistrés qui sont sur cette liste. La liste, il y a une liste qui existe sur l'utilisation malveillante. Il y a Spamhaus qui a fait beaucoup de travail là-dessus, par exemple. Et donc, on espère que la communauté tout entière va travailler à cette analyse. Et on a besoin des différents fichiers de zone également pour connaître tous les noms de domaines qui ont connu des abus. Et c'est par TLD, pour chaque TLD, par bureau d'enregistrement, que l'on doit voir comment ont été gérées et comment se sont déroulées ces utilisations malveillantes. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il y ait d'utilisation malveillante ou moins de chances selon chaque bureau d'enregistrement? Donc on a besoin d'une analyse beaucoup plus large de cela. Est-ce qu'on a réussi à réduire le nombre d'utilisations malveillantes ou pas, pour améliorer évidemment la confiance du consommateur? Donc qu'est-ce que l'on peut faire par la suite, une fois qu'on aura ces points de comparaison? Donc nos résultats préliminaires, qui n'incluent pas encore cette analyse très vaste dont je vous parlais tout à l'heure, nous pensons que les sauvegardes et protections ont été adoptées, il y a une conformité par rapport à la mise en œuvre. Les opérateurs ont véritablement fait leur travail avec ces protections accrues. Il y a eu évidemment quelques plaintes, mais un nombre limité de plaintes, c'est assez normal qu'il en existe certaines de ces plaintes. Vous pourrez obtenir plus d'informations à ce sujet dans le rapport, dans son entièreté. Donc, nous avons besoin peut-être d'analyses plus pointues pour des domaines très précis, mais nous n'avons pas encore vu d'analyse complète des abus, et ça devrait être fait à l'avenir, notamment pour les GTLD historiques, et pour faire une comparaison entre les GTLD historiques et les nouveaux GTLD. Je crois qu'on a besoin d'une analyse plus poussée, avec plus d'envergure. Donc, nos recommandations par rapport à l'analyse préliminaire, c'est qu'on refasse et que l'on peaufine cette analyse des utilisations malveillantes du DNS, des abus du DNS, qu'on améliore cette étude, et notamment pour les personnes qui définissent les politiques, pour savoir quoi faire, avoir de nouvelles options, de nouvelles sauvegardes, des protections. Pour avoir moins d'abus dans les nouveaux GTLD parmi les zones. Voir comment, avec le temps qui s'écoule, les données sont gérées différemment. Est-ce qu'il y a des rapports entre les problèmes qu'il y avait entre les GTLD historiques et les nouveaux GTLD? Quelles sont les mesures qu'on utilise? Quelles sont les nouvelles protections que l'on peut apporter pour lutter contre l'abus du DNS? Ça, c'est pour les opérateurs, pour les registres, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est tout ce que je voulais vous dire sur l'utilisation malveillante du DNS. Mais si vous êtes au courant de problèmes de ce type et vous avez des données à votre disposition, veuillez s'il vous plaît nous les faire parvenir, ça nous sera très utile. Donc n'hésitez pas maintenant à poser des questions à ce sujet. Très bien, donc je ne vois pas de questions. Je vais donc passer la parole à Laurine pour qu'elle poursuive la présentation. Oui, merci beaucoup Drew. Eh bien, je vais parler de ces sauvegardes. Et elles sont nombreuses. Nous avons commencé avec les objectifs dans notre méthodologie. Nous avons vu dans notre méthodologie, au deuxième point, comment les sauvegardes sont mises en œuvre et quels sont les problèmes qui peuvent exister. Je vais souligner les problèmes qui peuvent se poser avec, notamment avec le WHOIS, mais vous pourrez lire le rapport tout entier. Donc, principalement avec le WHOIS. Les obligations du who is. Pour vraiment améliorer la prévention des abus et essayer de réduire les problèmes. On se concentre là-dessus parce que l'ICANN reçoit des plaintes principalement au sujet de bureaux d'enregistrement et la plus grande catégorie de plaintes, c'est sur le who is. Donc, en plus des obligations contractuelles qui existent, l'ICANN fait un système de signalement de problèmes liés à l'exactitude du who is qui existe, qui avait trois phases au niveau de la syntaxe, au niveau de l'exploitabilité et au niveau de la validation de l'identité. Si on parle bien à la personne prévue. Donc il y a également la syntaxe qui est prise en compte et l'exactitude de l'opérabilité. Donc nous avons plusieurs recommandations à ce sujet. C'est un point très important pour l'ICANN, cette conformité. Et par rapport aux plaintes du who is, sont très importants. Donc, est-ce que les plaintes sont sur l'opérabilité, la syntaxe, l'identité ou autre chose? Quelles sont ces plaintes qui arrivent à l'ICANN? Et également, ce système de signalement de problèmes lié à l'exactitude du who is, l'ARS, est-ce que l'on va passer à la phase identité de l'ARS dans le cadre de ce système? Et ça, c'est une recommandation.
Alors, en ce qui concerne les chaînes qui sont sensibles ou réglementées, donc ce sont des chaînes qui ont été identifiées comme des chaînes un petit peu plus prioritaires, pour ainsi dire. Donc, l'idée, c'est d'atténuer les risques associés avec ces chaînes qui sont donc relatives à des secteurs professionnels réglementés. Donc, par exemple, les hypothèques ou autres domaines financiers, etc. Donc, il y a un certain nombre de sauvegardes qui sont relatives à ces nouveaux GTLO qui sont nécessaires de manière à être conforme en fait avec toutes les lois en vigueur. Et donc il y a tout un tas de lois qui existent en matière de protection des informations sensibles. Et également, si par exemple un domaine traite de certaines informations sensibles relatives à l'argent, etc., à la santé, donc il faut mettre en place des mesures de sécurité appropriées, raisonnables, qui correspondent en fait avec ce qui est proposé dans le cadre de ces services. Donc encore une fois, nous avons une recommandation là-dessus et c'est en fait un petit peu le thème. Donc il serait très important d'avoir davantage d'informations détaillées sur le sujet des plaintes qui sont disponibles à l'ICANN. Donc il faut savoir quelles sont les lois, l'infraction aux lois sur lesquelles les gens se plaignent. Si c'est l'abus du DNS, eh bien cela ne donne pas nécessairement la possibilité de savoir quel est le sujet spécifique qui a donné lieu à la plainte. Et nous savons également dans le cadre de l'étude Nielsen, il y a d'autres sources publiques qui sont disponibles, qui nous ont permis de le déterminer. Donc nous avons besoin vraiment de nous occuper des plaintes qui traitent des sujets financiers. Lorsqu'on considère les chaînes très réglementées, donc ce sont les chaînes les plus sensibles, le point banque, le point compte, etc., point account, donc il semblerait qu'il y ait un manque de clarté à savoir si oui ou non les parties contractantes sont en conformité avec ces sauvegardes. Nous savons que cela existe dans le contrat, donc il y a ce niveau-là de protection, mais ce que nous ne savons pas, c'est si les sauvegardes fonctionnent réellement dans le monde réel. Est-ce que réellement elles permettent d'atténuer les risques dans ces marchés très réglementés. Donc nous avons un ensemble de recommandations qui visent à poser la question suivante. Donc est-ce que les sauvegardes peuvent être applicables à tout le monde dans le cadre de ces nouveaux GTLD très sensibles, et sont-elles efficaces? Donc encore une fois, nous avons une recommandation qui vise à obtenir davantage de détails sur les plaintes qui sont envoyées à la CAN. Et puis l'idée, c'est de comparer le taux d'abus entre les nouveaux GTLD très réglementés qui ont consenti en fait à aller au-delà de la sauvegarde recommandée par rapport aux GTLD qui sont conformes avec les sauvegardes qui sont requises mais qui ne vont pas au-delà de ça. Donc une fois qu'on aura en fait une idée plus claire de ce qui se passe dans ce domaine, qui potentiellement est le plus risqué par le public, je pense qu'on pourra en savoir davantage. Donc voilà un petit peu quelle est notre approche, quelle est notre recommandation en ce qui concerne les sauvegardes, et je peux répondre aux questions maintenant s'il y en a. Donc je ne vois pas de main levée. Je n'entends personne. Donc, je vais repasser la parole à mon collègue qui va parler des engagements d'intérêt public. Ça y est, je suis de retour. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Donc, nouvel intervenant au micro. Donc, parmi les sauvegardes que nous avons considérées dans le cadre de notre révision, nous avons en fait considérer ce qui avait été inventé, donc les nouvelles qui avaient été inventées dans le cadre du processus de candidature pour les nouveaux GTLD. Les candidats ont pu, de manière volontaire, s'ils le souhaitaient, créer des engagements d'intérêt public qui, en fait, étaient des engagements obligatoires. Donc, les candidats déclaraient leur engagement et cela devenait obligatoire. Parce que si, en fait, leur candidature était acceptée, le TLD qui leur était donné, en fait, dépendait de cet engagement. Cela faisait partie de leur enregistrement. Et donc, le processus de résolution des litiges a été créé en considérant, donc, le caractère obligatoire de ces engagements. Et donc, les candidats de nouveaux GTLD ont choisi de s'engager au niveau de l'intérêt public. Donc il y a bien sûr des PICs qui sont obligatoires et qui s'appliquent à tous les opérateurs de registre et qui dépendent donc de leur catégorie. Donc, nous avons analysé tous les PICs volontaires suivant les catégories d'opérateurs de nouveaux GTLD. Donc nous avons considéré les PICs volontaires dans les GTLD très réglementés, donc les GTLD associés avec les secteurs dans lesquels il y a des sauvegardes supplémentaires qui sont obligatoires de toute façon. Nous avons également regardé ceci dans le domaine des GTLD réglementé, et puis les GTLD très populaires dans n'importe quelle catégorie. Et donc, sur la base des résultats que nous avons observés, en fait, il y a de très grandes différences suivant les sujets. Donc, ce n'est pas comme si tout le monde avait adopté exactement les mêmes PICs volontaires. Et étant donné également l'historique de ces PICs volontaires, ce qui s'est passé, c'est que c'était en fait suite aux avis du GAC. Donc en fait, les candidats, avant même de poser leur candidature, ont en fait décidé de ces engagements publics. Et du coup, la substance, le contenu variait. Donc pour certains de ces pics volontaires, ils reflétaient ce que nous voyons maintenant, ce qui existe dans des candidatures de registre, mais pour certains, ils font partie de leur engagement, mais pour d'autres, c'était un petit peu spécifique à leurs besoins pour protéger leurs droits, leurs droits de la propriété intellectuelle. Il y en a d'autres qui ont trouvé d'autres moyens d'atténuer les risques d'abus de DNS dans leur domaine. D'autres qui, en fait, ont utilisé des pics qui ressemblaient étrangement à ce qui était déjà obligatoire, ce qui leur était donné par leurs opérateurs de registre. Donc, c'est assez, finalement, étrange qu'ils aient décidé de cet engagement d'intérêt public volontaire. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde un petit peu la diversité de ces pics volontaires, ce qui se passe, c'est que, finalement, on se rend compte qu'il est difficile de mesurer l'efficacité de ces pics et de leur signalement. Parce qu'en fait, les objectifs n'étaient pas très clairs pour ces pics volontaires. Donc, c'était difficile de dire si oui ou non, c'était une bonne chose. Et donc, il était difficile de savoir si cela correspondait à ce qui avait été promis par les opérateurs de registre. Également, en matière du processus, donc, le mécanisme en place doit s'assurer de s'occuper de tout impact négatif sur l'intérêt public. Donc, l'hypothèse, c'est que si nous recommençons une opération de ce type, il faut qu'il existe un processus qui s'assure que les opérateurs définissent le niveau d'obligation pour la communauté, à savoir si ceci est nocif pour la communauté. Alors, sur la base de ce que nous avons observé, nous avons des recommandations qui sont les suivantes. Donc, l'ICANN doit améliorer l'accessibilité de ses engagements d'intérêt public volontaire, et nous pensons que la meilleure manière de le faire serait d'entretenir une base de données accessible pour le public à ses engagements, parce que l'idée, c'est que les utilisateurs finaux, les membres de la communauté, doivent en fait pouvoir lire ces contrats d'opérateurs de registre pour savoir quels sont ces engagements. Cependant, étant donné la différence entre ces pics, eh bien, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une base de données autonome, de manière à ce que la communauté puisse déterminer les différences entre les différents engagements. Donc. Et puis nous pensons que ceci améliorera la redevabilité, de manière à ce que les gens dans la communauté puissent décider de ce qu'ils pensent de l'opérateur de registre, est-ce qu'il fait bien ce qu'il promet, et puis cela permettra de souligner, de faire ressortir ceux qui sont vraiment, qui s'engagent vraiment à des choses probantes. Nous croyons également qu'à l'avenir, pour les nouveaux GTLD qui viendront donc à l'avenir, nous pensons qu'il faudra que les candidats déterminent les objectifs qui sont relatifs à chacun des pics volontaires, de manière à clarifier, à déterminer quel est l'objectif en fait du candidat. Et puis en matière d'efficacité, est-ce que le pic volontaire correspond à l'objectif? Et donc nous passons maintenant à la recommandation suivante, qui dit que tous les pics volontaires doivent être envoyés pendant le processus de candidature, de manière à ce qu'il y ait une opportunité suffisante de révision par le GAC, ainsi que de révision par la communauté et de manière à ce qu'il y ait possibilité d'objection sur ces objections pour intérêt public limité. Donc l'idée, c'est de s'assurer que ce pic volontaire correspond aux intérêts de la communauté. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Donc ces pics volontaires, voilà les conclusions que nous avons tirées. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, très bien, puisque je ne vois personne qui souhaite prendre la parole, je vais repasser la présentation à Jonathan. Jonathan, en fait, va prendre la place de David qui n'a pas pu venir ce matin.
Eh bien, merci beaucoup, Drew. C'est intéressant, ces expressions qui passent à travers les cultures. Donc, si vous voulez voir l'analyse des RPM de David Ehlers, eh bien, vous devrez aller au deuxième webinaire. Donc, ce que j'ai noté, c'est l'impact des nouveaux GTLD par rapport aux mécanismes de protection des droits. Et vous avez vu dans la présentation de Jordan qu'il y avait des enregistrements défensifs. C'est pas toujours facile de les définir précisément, mais c'est des gens qui inscrivent des noms de domaine pour que d'autres personnes ne prennent pas ce nom de domaine, donc pour protéger leur marque déposée, leur marque de commerce. Donc nous avons une différente distribution ici, et les TLD historiques avaient une stratégie un petit peu différente pour protéger les marques déposées. Eh bien, on enregistrait tous les noms de domaine possibles. Et maintenant, il y a plus de mécanismes qui sont utilisés pour protéger les droits. Donc, voilà ce que l'on essaye d'évaluer. Et on essaye d'avoir plus d'informations sur ces mécanismes de protection des droits lorsque l'on fera la prochaine analyse. Donc, il s'agit de bloquer des contacts directs entre les personnes qui pourraient essayer de porter atteinte à sa protection des droits et avoir des procédures de résolution. Donc nous avons posé plusieurs questions. Est-ce que les mécanismes de protection des droits ont aidé à réduire la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits des consommateurs? Quel était l'impact de ces mécanismes de protection des droits? Nous avons regardé les chiffres de 2012 à 2015 avec une mise à jour en 2016. Nous avons regardé ce que faisait l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO, et également l'Association internationale des marques de commerce. Ce que nous avons noté, c'est qu'il y avait de plus en plus de cas qui ont été enregistrés d'une année sur l'autre en ce qui concerne le système uniforme de suspension rapide et la politique de règlement uniforme de litige en matière de nom de domaine. C'est entre 2 et 17% pour les nouveaux GTLD, cela représentait 10% du nombre de cas à WIPO. Donc pour les nouveaux cas, pour les nouveaux GTLD, il y a plus en effet de représentation des nouveaux GTLD dans le cadre de la résolution des conflits. Et nous avons noté que le nom de domaine au niveau du UDRP est plus important également. Donc, il y a une indication d'un accroissement de résolution des conflits qui existent pour la protection des droits. Donc, nous avons quelques recommandations préliminaires que nous avons effectuées dans notre rapport. Donc, une analyse de l'impact des nouveaux GTLD sur le coût et les efforts requis pour protéger les marques déposées, les marques commerciales. Et donc, refaire cette analyse dans les 18 mois pour le rapport final de la CCTRT. Une analyse complexe du système uniforme de suspension rapide et l'interopérabilité par rapport au UDRP. Il y a un groupe de travail de PDP, de développement de politique, qui se penchera là-dessus, recommandation 44. Une analyse totale de la TMCH, du Centre d'échange d'informations sur les marques et de son envergure. On n'a pas encore toutes les données pour ces mécanismes de régulation, mais il y a des indications qu'il y a un accroissement des coûts, tout particulièrement dans le domaine des résolutions avec les nouveaux GTLD, résolution des problèmes. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Très bien. Eh bien, nous allons passer au processus d'évaluation et de dépôt de dossiers de candidature. Ce que nous avons essayé de nous concentrer sur ces analyses, pas seulement sur l'efficacité du processus, mais surtout sur l'aspect des inégalités du processus. Le groupe d'analyse et de travail a essayé de se pencher sur les pays du Sud, par exemple. Donc, est-ce que c'était juste? Est-ce qu'il y avait une question d'égalité par rapport aux pays du Sud moins avancés, qui participaient moins, qui ont participé moins? Comment on peut, à l'avenir, améliorer le programme pour avoir une participation accrue des pays du Sud? Donc, pour les données, on a utilisé l'étude qui a été faite en Afrique. On a fait une étude des différents groupes ou cohortes qui ont été faits par EM Global pour les différentes entités qui existent dans les pays du Sud, des comparaisons avec d'autres entités situées ailleurs sur le globe. Donc, ce que nous avons noté, c'est que la communauté doit bien définir les objectifs, doit avoir plus de dossiers de demandes qui arrivent des pays du Sud, plus de participation aux conférences. Donc, pour que ce soit plus équitable, on peut faire plusieurs choses pour avoir une meilleure participation des pays du Sud dans toute la communauté. Nous avons quelques idées à ce sujet, notamment une sensibilisation avec peut-être des médias plus traditionnels, un programme plus large de participation aux conférences, parce qu'on n'a pas réussi à atteindre assez de personnes dans le cadre de notre travail. Donc, les personnes n'étaient tout simplement pas au courant de ces nouveaux GTLD. Dans les pays du Sud, elles n'ont pas eu le temps de déposer des dossiers de demande. Ce que nous avons fait également à la suite de notre étude sur les cohortes, c'est de faire des études de cas et de définir des modèles commerciaux pour ces nouveaux GTLD. On manquait d'informations au départ, au début du programme des nouveaux GTLD, et on a besoin d'aspects plus concrets maintenant, plus d'informations, plus d'études de cas, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et avoir plus d'informations sur les modèles commerciaux qui existent dans les pays du Sud. Je crois qu'il faut commencer plus tôt notre travail de sensibilisation avec les entités des pays du Sud et revoir un petit peu le programme d'aide pour les dossiers de demande, l'aide financière parfois non financières, tout simplement qu'il y ait des mentors qui permettent d'aider les entités des pays du Sud à déposer des dossiers de demande. Donc sur le site web, ce n'était pas très clair, ce n'était pas coordonné par l'ICANN, et notre recommandation, ce serait que on revoie cela, qu'il y ait une meilleure coordination de la part de l'ICANN. Donc voilà un petit peu ce que nous voulions dire sur les pays du Sud. Et ce que nous avons noté également, c'est que des avertissements très tôt, des alertes données très tôt, sont utiles, le plus tôt possible en fait, lancer des avertissements pour que on puisse que les dossiers de candidature soient solides et puissent être solidifiés sur une longue période de temps avec plus de cohérence également dans la résolution des conflits, dans les processus de résolution des conflits. Ça, c'est quelque chose de très important, de revoir ces procédures et d'avoir une analyse générale du processus de résolution des litiges est nécessaire, y compris la question de la limite des singuliers, d'utilisation du singulier et du pluriel. La communauté pense que cela posait problème, il y avait une impossibilité d'avoir le singulier et le pluriel. Y a-t-il des questions sur ces évaluations ? Donc, ne voyons pas de questions, nous allons maintenant parler des prochaines étapes qui existent, le calendrier. Nous avons un rapport qui a été publié avant Copenhague, la réunion de l'ICANN à Copenhague, la 58. Nous avons 4 analyses qui ont été effectuées, avec des données régionales, avec des exemples d'analyses régionales. Il y a eu un rapport préliminaire sur les utilisations malveillantes et les abus du DNS, les données qui sont sur le parking, l'analyse de l'INTA également. Donc en avril, nous aurons la fin de la période de commentaires publics au 27 avril 2016, et nous aurons ensuite donc une réunion à Johannesburg, à la réunion de l'ICANN 59, pour revoir un petit peu la situation, revoir le rapport final sur les abus du... Et en juillet, le rapport sera donné au conseil d'administration. Donc, j'aimerais remercier vous tous de votre attention et de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire des commentaires, à nous contacter. Vous avez une adresse email sur l'écran. Vous pouvez nous envoyer un commentaire par email. Donc, vous avez ce lien hypertexte était à l'écran. On sera toujours très heureux de répondre à vos questions par la suite. Donc, vous pouvez commenter au sujet du rapport et nous continuerons à clarifier notre travail pour toute la communauté. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à Jordan, Maureen et Drew de cette participation, et n'hésitez pas à nous poser plus de questions. Merci beaucoup.